Podcast de la série Les réseaux pédocriminels n'existent pas. Round 21, le réseau Hampstead-Westminster. Des enfants victimes d'abus rituels niés par la justice anglaise. Revenons à Hampstead, en Angleterre, où deux enfants âgés de 8 et 9 ans ont dénoncé des abus de type rituel, commis par leur père et une bande de pédophiles. Les enfants se sont ensuite rétractés. Et la police a sauté sur l'occasion pour classer l'affaire. Aujourd'hui, ceux qui tentent de défendre ces enfants ont mis en ligne deux certificats médicaux qui ne laissent aucun doute sur la réalité des viols subis par ces enfants. Aujourd'hui, ces enfants sont placés séparément et ne peuvent plus voir leur mère, qui tentait de les protéger. C'est après avoir été placés suite à leur révélation qu'ils se sont rétractés. On peut souligner ici que le scénario est quasiment le même que dans l'affaire du Var, donc l'affaire Amy de Lisa, je vous laisse regarder un autre podcast dédié à cette affaire. Depuis le mois de septembre, les deux enfants ont en effet répété les mêmes choses à plusieurs personnes, dont des policiers et des médecins. Ils ont notamment parlé du meurtre de bébés, dont au moins un commis par leur père. Mais tout cela n'a pas suffi. Pour la justice, aujourd'hui l'affaire est classée. Ces deux certificats médicaux, réalisés par des pédiatres renommés du University College of London, datent du 15 et 22 septembre 2014. Le docteur Hodge a signé les deux rapports qui ont décelé des cicatrices au niveau de l'anus chez les deux enfants qui souffrent aussi de symptômes de stress post-traumatique. Le garçon s'est plaint qu'il avait du sang dans son slip, mais a dit que ça s'était calmé depuis qu'il ne voyait plus son père. La fille a aussi raconté qu'on les obligeait à se déshabiller à l'école et qu'on leur mettait des objets dans l'anus, à eux ainsi qu'à d'autres enfants. Les deux ont aussi expliqué qu'on leur mettait de la vaseline avant les viols. En outre, le médecin rappelle que dans les cas d'enfants victimes, 16% se rétractent alors qu'ils ont réellement subi des abus sexuels visibles. Elle précise aussi que les enfants n'ont pas pu inventer des scènes qu'ils ont décrites. Bidonnage en règle. Le 17 septembre, 6 jours après qu'ils aient été placés, les enfants ont été interrogés par la police une troisième fois et se sont rétractés. Ceci dit, il est assez clair dans la vidéo de cette audition que les enfants ont été intimidés par les policiers et poussés à se rétracter. À un moment, le flic lui-même dit qu'il a parlé avec l'enfant juste avant l'audition. Il pose aussi des questions en donnant la réponse, en mettant l'enfant sur une voie bien précise qui menait à enlever toute consistance à ses accusations. Pourtant, le garçon a bien confirmé une fois de plus que des bébés étaient tués, et notamment par leur père, par exemple. Mais au lieu de demander plus de détails, le flic lui dit que si tout cela n'est jamais arrivé, il peut le dire, il n'y a aucun problème s'il le dit tout de suite. À un moment, le flic dit même que sa sœur a dit l'inverse de lui, sous-entendant qu'il mentait. Or cela était faux. On peut en tout cas se demander la raison de toutes ces manœuvres, s'il n'y a rien à cacher. À la suite de sa rétractation, la police a dit que les enfants avaient été coachés par le compagnon de leur mère pour faire de fausses accusations, et qu'ils avaient aussi inventé ces histoires après avoir vu le film Zorro, ce qui est une ineptie. Mais cette théorie a le mérite d'arranger les autorités, et bien sûr tous ceux, et ils sont nombreux, qui ont été cités comme abuseurs par les enfants. Sur le web, de nombreuses vidéos avec les témoignages des enfants ont été mises en ligne et puis effacées par YouTube. Dans ces vidéos, prises à différents moments, les deux enfants ont redit que des abus avaient lieu à l'école, surtout le mercredi d'ailleurs, et que de nombreux adultes venaient pour les viols collectifs avec parfois des meurtres de bébés. Les enfants ont désigné de nombreux agresseurs, dont des membres du staff de l'école, des parents d'élèves, un curé, des amis de leurs parents, jamais inquiétés. On ne sait même pas si RD, le père des enfants, a été entendu par les enquêteurs. Les enfants ont aussi désigné plusieurs autres victimes qui, bien sûr, n'ont pas été interrogées par la police ni même par un pédopsychiatre. L'affaire est donc close pour la justice. Du coup, certains se demandent pourquoi on ne mène pas une enquête sérieuse. S'agit-il de protéger un acteur de seconde zone, ainsi que la réputation d'une école et d'une église? Probablement pas seulement, et il doit y avoir d'autres enjeux. Personnellement, je constate que ces réseaux, quand ils existent, protègent avec force leur maillon faible, car si un maillon faible tombe, il risque d'entraîner beaucoup de monde dans sa chute. Et quand ce n'est plus possible de les protéger, on les lâche et on prend ses distances, et le type assume seul ou se, entre guillemets, suicide en prison. Donc on pourra citer par exemple Epstein, Romain Farina dans l'affaire de Villefontaine, etc. En tout cas, aujourd'hui, c'est la mère des enfants qui est poursuivie pour les avoir manipulés. Les enfants sont placés et voient leur père davantage que leur mère, et ils n'ont pas été pris en charge en tant que victimes, puisqu'on considère que tout ce qu'ils disent n'est qu'un mensonge. Une probable affaire d'abus rituel en cours d'étouffement en Angleterre. Deux enfants de 8 et 9 ans, donc, ont expliqué à leur mère que le père les avait violés et avait tué un bébé devant eux avec d'autres adultes. Leur mère s'est rendue à la police, munie de plusieurs certificats médicaux, mais étrangement, les flics ont bien vite bouclé l'enquête, estimant qu'il n'y avait pas de preuves. Comme dans l'affaire du Var, donc les enfants étaient placés, largement privés de leur mère, ils ont fini par se rétracter. D'après le récit des enfants, le père sera un meneur d'un groupe satanique actif au nord de Londres, un quartier friqué à 5 km à peine de Westminster, où opérait le réseau pédophile des politiciens. Ce que disent ces enfants peut sembler énorme, incroyable même, mais je commence à avoir trop entendu le même genre d'histoire, y compris en France, pour rejeter cette histoire. En effet, le récit des deux enfants est très ressemblant à ce qu'on a déclaré les trois autres enfants de l'affaire du Var, donc de l'affaire Amy de Lisa. Là, on se situe donc à Hampstead, toujours la même affaire. On n'a pas encore parlé de cannibalisme ni de torture d'enfants à répétition. Du moins, pas encore. Comme dans l'affaire du Var, c'est suite à des violences du père que la mère de nationalité russe s'en est séparée quand le plus jeune des enfants avait 1 an. Mais les perversités de ce dernier ont été crescendo, jusqu'à des viols collectifs de type rituel avec meurtre d'enfants. Depuis longtemps, la mère avait aussi noté des signes de mal-être, de grande tristesse, quand ses enfants revenaient de chez leur père. Mais c'est seulement en août dernier, au retour de vacances chez lui, qu'ils lui ont parlé de ce qu'il se passait. Elle a été dénoncée les faits à la police début septembre, et 6 jours plus tard, les enfants ont été placés en foyer. Dans l'affaire du Var, il n'a même pas fallu 24 heures. Drôle de réflexe que d'éloigner les enfants de leur mère à qui ils se confient. 2 semaines plus tard, les flics ont dit à la mère que les enfants s'étaient rétractés. Selon eux, les enfants auraient répété une histoire d'après le film Le Masque de Zorro, qui n'a strictement rien à voir avec ce genre d'abus. Avant de clore leur enquête, entre guillemets, les flics ont quand même demandé des expertises médicales qui ont confirmé les viols subis par les enfants en leur niveau anal et leur traumatisme. Mais comme dans l'affaire du Var, c'est la mère qui se retrouve aujourd'hui au tribunal, accusée de ne pas protéger ses enfants. Alors, juste une parenthèse quand même incroyable, donc, les enfants étaient violés, mais on ne cherche pas à savoir par qui. Il n'y a pas de problème, c'est inventé. Ah bon, il y a des traces médicales, mais c'est inventé. Et par qui, on ne sait pas. On s'en fiche, en fait. La justice se fiche de savoir qui a violé ses enfants alors qu'il y a des preuves médicales qu'ils ont été violés. C'est quand même fort de café, je reprends. Et leur père a le droit de les voir davantage, bien plus que leur mère, qui est privée de visite jusque fin décembre, semble-t-il. Et les effets du lavage de cerveau paternel se sont vite fait sentir. Par exemple, ils n'ont plus le droit de parler entre eux en russe. Ce qui a trait à leur mère est banni. Ils ne peuvent plus voir leurs demi-frères ni leurs grands-parents. Ils n'ont plus mis les pieds à l'école depuis 3 mois et ne font plus de sport ni de musique. Mais surtout, ils apparaissent effrayés en présence de leur mère. Pourtant, c'est son nouveau compagnon qui a le premier eu la puce à l'oreille, envoyé des enfants se toucher sexuellement entre eux ainsi que le chien. Le couple les a alors enregistrés séparément en les questionnant sur les faits et les deux ont raconté la même chose, notamment que leur père a tué un bébé devant eux. Comme dans l'affaire du Var, sauf que dans le Var, les enfants sont trois et avoir dit la même chose est sur bien plus de séances. Puisque il y avait des rituels qui se. Il y avait au moins, je crois, 8 enfants ou un peu plus qui ont été tués d'après le témoignage des enfants du Var. Comme dans l'affaire du Var, les enfants ont fait des dessins on ne peut plus explicites. Apparemment, plusieurs bébés auraient été tués, dont un décapité avec un couteau d'une manière qui ressemble à un sacrifice. Parmi les abuseurs, outre leur père, les enfants ont cité certains de leurs enseignants, dont le head teacher, donc le principal, un curé qui fait aussi partie de l'équipe, des parents d'élèves, et dont un aurait aussi tué un bébé. Les deux enfants ont expliqué que, à chaque fois qu'on les violait à l'école, quasiment tous les jours, mais surtout le mercredi, leur père était présent, alors qu'officiellement ils ne les voyaient que le samedi. Une vingtaine d'autres enfants seraient victimes de ce réseau, et pour quelques-uns d'entre eux, les parents sont aussi impliqués. Comme dans l'affaire du Var, ils ont dit être menacés de mort s'ils parlent. C'est d'ailleurs pour cela que ces enfants ne parlent jamais spontanément de ce qu'ils subissent. En l'occurrence, les abus dureraient depuis plusieurs années. Les enfants ont aussi expliqué qu'ils étaient drogués par une personne de l'école avant les abus. Les enfants sont toujours placés aujourd'hui, alors qu'il n'y a aucun motif valable d'avancer pour cela par les autorités. Même si nous, on sait bien que c'est une mesure de rétorsion à l'encontre de leur mère pour les faire taire, ce qui est hélas très efficace, les enfants comprennent que plus ils parlent, moins ils voient leurs parents protecteurs. Par contre, d'après les citoyens qui révèlent cette affaire au grand jour, des éléments ont été montés de toutes pièces, contre la mère des enfants, afin d'en faire une mauvaise mère. La justice ne semble en effet pas décidée à prendre au sérieux la parole des enfants, qui commencent à se rétracter comme on le voit souvent. En effet, les victimes de ce type d'abus ne peuvent parler que lorsqu'elles se sentent en sécurité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour ces deux-là. Impunité de mise. Comme dans l'affaire du Var, on observe que les magistrats qui interviennent sont déjà connus pour des affaires similaires, étouffées elles aussi. La juge Vera Mayer est intervenue dans le dossier Melissa Laird. Elle a refulé l'affaire à la juge Anne Pauffley, qui est intervenue négativement dans l'affaire Holly Craig, une jeune trisomique écossaise victime de son père et d'un réseau manifestement satanique qui a dû fuir le pays avec sa mère. Je vous renvoie au podcast du réseau Magic Circle pour l'affaire Holly Craig. Contrairement à la loi, des réunions privées ont eu lieu entre l'avocat des autorités locales et les juges dans le dos de la mère. Finalement, la mère sera jugée par le tribunal des familles, chez nous ça sera le JAF, à huis clos en février prochain. À Homestead, le Royal Free Hospital fait partie de la vingtaine d'hôpitaux où des investigations sont menées dans le cadre de l'affaire Jimmy Savile. Je vous renvoie également au podcast de l'affaire BBC Jimmy Savile. On sait en effet qu'il avait les clés de nombreux hôpitaux où il a commis divers abus, jusqu'à des rituels sataniques dans des caves. L'un de ceux à qui il fournissait des enfants était le premier ministre pédophile Ted Heath, dénoncé par certains comme étant un sataniste. Il semblerait que Heath aimait rencontrer des garçons dans un parc d'Armstead où beaucoup connaissaient « Monsieur Eddie », entre guillemets. Certains observateurs disent que c'est parce qu'il était coincé avec ses pratiques pédophiles que Heath, pourtant conservateur, a fait rentrer l'Angleterre dans le marché commun européen. Ce qui est loin d'être impossible. À Homestead, un autre pédophile notoire, celui-là, qui a mené une carrière politique en tant que député affilié au groupe juif, Lord Greville Jenner, J-A-2-N-E-R. Il avait une résidence qui a connu une perquisition en 2013 dans le cadre d'une enquête sur des actes pédophiles qu'il aurait commis sur un jeune garçon placé dans un foyer que Jenner avait, entre guillemets, pris sous son aile. En 83, une mère de 24 ans et son fils de 18 mois ont disparu à Homestead. La presse a évoqué les liens de cette femme, Rita Kabidu, avec un groupe qui donnait dans l'occultisme, appelé les Pagan Pathfinder, ceux qui cherchent le chemin du paganisme, enfin des païens, quoi. Qui a dit qu'elle n'était plus en contact avec eux depuis plusieurs semaines avant sa disparition. Il a aussi été question du satanisme à Highgate Cemetery, donc un cimetière, de tombes profanées, de corps sortis des tombes, de symboles occultes, de cérémonies bizarres. Ce cimetière se trouve à 500 mètres du parc d'Homestead. Ces cérémonies étaient apparemment tellement connues que des ados en mal de sensation venaient s'y balader la nuit en espérant y croiser des tarés en train de profaner des tombes ou de faire de la magie noire, et la police a même lancé une enquête. Homestead est juste à côté d'Islington, un autre arrondissement de Londres, où les 12 orphelinats publics recelaient des réseaux pédophiles dans les années 80. Et où les autorités ont tout fait pour étouffer le scandale, comme on l'a déjà dit. Un des gamins tués par le gang de Sidney Cook, Jason Swift, passé pour un prostitué à l'âge de 13 ans, venait d'un de ces orphelinats. Margaret Hodge, grande amie de Tony Blair, qui a longtemps vécu à Islington, était le chef du conseil local. Elle a été avertie à maintes reprises des abus qui se déroulaient dans les orphelinats dont elle était responsable. Elle n'a rien fait et a été gratifiée par Blair du tout premier poste de ministre de l'Enfance créé par lui-même. En Angleterre aussi, les parents protecteurs perdent donc leurs enfants quand ils dénoncent ces crimes, surtout si ces crimes pédophiles sont commis en réseau. Cela devient systématique, à tel point qu'on est obligé de se demander jusqu'à quel point la, entre guillemets, justice est complice. En tout cas, il est à craindre que, comme dans l'affaire Amy de Lisa, les enfants seront finalement confiés au bon sang de leur père et que leur mère passera pour une mauvaise mère qui fait dire d'horribles mensonges à ses enfants. Actualisation de février 2015. J'ai écrit dans cette affaire, on ne parlait pas encore de cannibalisme. Eh bien, nous y sommes. Ce dimanche, un site lié aux Anonymous a repris les détails de cette affaire et il semble que ce soit un témoignage rédigé par la mère des enfants. On y lit que des bébés seraient régulièrement fournis au culte, qu'ils y seraient drogués pour les calmer, violés et torturés, puis tués. Ensuite, les membres et victimes de ce groupe boiraient leur sang et cuisineraient les corps en les faisant rôtir ou frire. Cela peut sembler parfaitement incroyable, mais hélas, ce n'est pas la première fois que j'entends ça, et cela ressemble aussi beaucoup à ce qu'ont pu décrire les enfants du Var. Alors, juste une parenthèse, il a été découvert aux États-Unis une vidéo avec deux petites mamies qui te font une sorte de, comment dire, de show de cuisine, tu vois, comme à la télé, là où on t'apprend des recettes de cuisine sympathiques à deux, sauf qu'elles cuisinent un bébé. Voilà. Et ça, c'est des vidéos qui circulent dans ces réseaux-là, et les mecs se marrent, quoi. Fin de la parenthèse. Donc ces choses existent. Le père des enfants donc, serait le leader de ce groupe de tarés. Les viols et sacrifices de bébés auraient lieu les mardis, mercredis et jeudis. Cela ferait quand même beaucoup de bébés tout de même, mais on nous dit qu'ils proviendraient de partout dans le monde, ramenés de Hawaï, d'Afrique du Sud, du Portugal, d'Espagne, de Chine, de Guyane, d'Inde, par plusieurs parents. Alors aussi avec beaucoup d'argent, hein, quand même, parce que quand on peut, il faut les acheter ces bébés, hein, c'est pas gratuit. Il sera intéressant de savoir de quelle manière autant d'enfants sont ramenés en Angleterre pour ensuite disparaître sans qu'une personne ne s'en inquiète. Les partouzes auraient surtout lieu le mercredi, jour où les enfants ne voulaient vraiment pas aller à l'école. 60 à 70 personnes seraient présentes pour les viols du mercredi, dont une vingtaine d'enfants à qui on apprendrait à se violer mutuellement. Là aussi, on dirait que c'est une pratique courante dans ces milieux. Ces rituels auraient lieu en différents endroits, des pièces secrètes d'une même église. Tout le monde aurait des costumes constitués avec des ossements des bébés tués et des chaussures réalisées par des membres du culte à partir de la peau de ces bébés. Ces rituels-là auraient lieu les mardis et jeudis. La East Finchley Swimming Pool, située à 2-3 km au nord de Hampstead, serait de son côté un lieu de rencontre pour les membres du groupe et des sacrifices d'enfants s'y produiraient aussi. Divers membres du culte travailleraient dans ce complexe, notamment au McDonald's où il y aurait aussi une pièce secrète. Toute une liste de protagonistes est aussi donnée. Le samedi, des actes de sacrifice et de cannibalisme auraient lieu à divers domiciles des membres du groupe. Le groupe produirait et vendrait de la pédopornographie et des snuff movies dans différents pays, une source importante de revenus. Les deux enfants auraient expliqué que les viols par leur père ont commencé quand ils étaient tout petits, ils étaient obligés de se tripoter entre eux. Puis il les a vite introduits auprès des autres membres du groupe. Lors de viols collectifs filmés, les adultes avaient des masques lors des films où d'autres enfants étaient présents. Les enfants devaient regarder les viols des autres enfants et aussi les vidéos de ces viols. Ils disent que leur père a mis des vidéos sur Internet. Le père des enfants connaissait certains membres de l'école, donc Christ Church, avant qu'ils n'y entrent, dont la directrice. Les enfants qui crient et ne supportent pas la douleur seraient drogués par l'infirmière de l'école. C'est à partir de la rentrée de septembre 2013 que les abus auraient beaucoup augmenté en intensité. Leur mère et leur grand-mère les auraient surpris en train de se toucher mutuellement. Les enfants auraient répété la même histoire à plusieurs personnages de leur entourage, sans jamais varier de version. On continue l'actualisation un peu plus tard en 2015. Voici quelques-unes des vidéos avec les témoignages des enfants. Les avocats ont déjà demandé que les premières vidéos des enfants soient retirées du net, mais la famille a, semble-t-il, décidé de passer outre et de diffuser une grande partie des témoignages. À voir ces vidéos, on sent bien que les enfants ne sont pas en train d'inventer ce qu'ils racontent. D'ailleurs, les deux versions concordent parfaitement. Personnellement, j'aurais tellement préféré que ce ne soit pas le cas et que tout cela ne soit qu'une histoire inventée par une mère indigne, mais là, nous devons regarder la réalité en face. La mère des enfants explique que dès 2007-2008, Dearman a commencé à violer les enfants en leur introduisant, outre son sexe, divers objets dans les fesses. Donc c'est le nom du papa. Cela non seulement chez lui, mais aussi dans les toilettes de divers lieux publics. Quand ils ont eu 4 et 3 ans, il a présenté ses enfants à d'autres pédos. Parmi ces gens, un sadique d'origine polonaise, nommé Minia, qui a ramené des enfants de moins de 3 ans au partouze, un Allemand appelé Buster, mais aussi sa propre famille, la mère de Dearman, sa sœur, son beau-frère, son frère, sa belle-sœur. Des adultes ont aussi amené leurs enfants aux orgies. Les enfants étaient violemment frappés, notamment à la tête. Les adultes violaient nos enfants, chacun à leur tour, durant 2-3 minutes. Eux aussi introduisaient divers objets dans les fesses des enfants, comme des petits cailloux, de l'herbe. Toutes les violences et les viols étaient filmés, et les enfants étaient obligés de regarder les autres se faire violer. Pendant ce temps-là, le frère et la sœur montraient des comportements de plus en plus violents, sans raison apparente. De fin 2008 à fin 2009, Dearman n'a pas vu ses enfants. Il était trop occupé et n'était pas en Angleterre. Les enfants ont alors été séparés, et la fille passant un long séjour en Russie, chez ses grands-parents, le garçon restant à Londres. Ils ont alors semblé aller mieux. Leur mère les a ensuite amenés voir une psychologue, mais le père s'est fortement disputé avec celle-ci. La mère a alors cherché à réduire la fréquence des relations entre les enfants et leur père, mais la justice lui a permis de les voir sans surveillance, chaque samedi, de 10h à 18h, de fin 2010 à fin 2011. En 2010, la fille est entrée à la Christ Church, donc school, et les abus par les enseignants ont commencé. D'après les enfants, le père connaissait déjà Madame Wilmer, la maîtresse du garçon, en première année de primaire. Elle a vite été amie avec Madame Forthdyke et d'autres membres de l'équipe. Les abus sont alors devenus réguliers, y compris pendant le temps scolaire, et d'autres victimes étaient concernées. Les enfants étaient récompensés pour ne pas parler avec leurs bonbons préférés, et d'un autre côté, ils étaient menacés de mort s'ils parlaient des abus. Le mercredi, tout un tas de gens venaient à l'école pour les viols, et certains se montraient particulièrement sadiques. Vers 2012, les enfants se sont mis à voler de l'argent à leur mère et à son compagnon. Ils ont expliqué récemment que c'est leur père qui leur avait dit de faire ça, et apparemment les avait dressés à voler pour lui. Au début de l'été 2014, de grosses sommes ont été volées sur le compte de la mère des enfants. Le père avait demandé à sa fille de noter les détails de la carte de crédit pour voler de l'argent. Elle a aussi demandé de voler l'iPhone du compagnon de la mère et a filmé des viols avec. D'ailleurs, les accusations contre lui n'ont fait qu'augmenter au fil des audiences de tribunal. Quand les enfants ont commencé à se rétracter, ils se sont aussi mis à accuser le compagnon de leur mère de diverses violences sur ce qu'il se passe à l'école, dont les meurtres des bébés. Ils mangent des bébés et les cuisinent, les sacrifient, leur font du sexe, tout le monde fait ça. C'est ce qu'ils disent. Ça se passe au Starbucks, aussi à Hampstead. Les enfants citent Madame Fordyke, la directrice de l'école, dont il décrit des particularités anatomiques dans la deuxième vidéo, des enseignants, des curés comme abuseurs, ainsi que leur père. Tous ces gens-là, quand leur père tue des bébés. Tous ces gens sont là quand leur père tue des bébés. Leur père vient à l'école pour des viols, mais ça se passe aussi dans des bureaux, dans des immeubles. Leur père est parfaitement au courant. Il y a beaucoup de sexe et de l'argent circule. Le mercredi, c'est un jour spécial pour le sexe. Cela se passe à l'école et il y a beaucoup de monde qui vient pour ça, dont des parents d'élèves et leur père. Sur ce qu'il se passe à l'église, des sacrifices de bébés, des orgies. Leur père et d'autres parents, des pères, tuent des bébés puis les découpent. Sur les chaussures en peau de bébé, faites et portées par les membres du groupe. La fille explique qu'elle-même a dû tuer un bébé avec son père qui lui tenait la main. On a quasiment le même récit dans l'affaire du Var et puis dans d'autres affaires, dans le témoignage d'Aria et Phoenix. Sur les autres enfants victimes de ce réseau, dont un certain nombre de camarades de classe, des gens vendent les bébés qui sont drogués pour les faire dormir avant de les tuer. Sur les menaces de mort, si les enfants parlent, leur père a menacé de venir les tuer s'ils parlent. Donc tout ça, c'est un petit résumé synthétique du témoignage des enfants que vous pouvez également visualiser. Beaucoup d'éléments qu'on retrouve dans ce réseau d'abus rituels, vous pouvez vous intéresser si vous voulez à une étude qui a été faite, il y a un live donc qui a été fait par l'association et une étude sur l'ensemble des réseaux pédocriminels où on retrouve une typologie des pratiques et ce sont des pratiques qui hélas sont répandues dans ces réseaux qu'on retrouve dans beaucoup d'autres réseaux. Voilà, même ici c'est quand même poussé assez loin, notamment les chaussures en peau de bébé. Je crois pas avoir vu ça dans un autre réseau, mais bon. Voilà, avançons. Et donc on va voir le lien avec un autre réseau qui se situe juste à côté dans le quartier d'à côté, et qui est certainement en lien avec ce même réseau de Hampstead. La justice anglaise refuse de poursuivre un député pédophile encore vivant. Donc revenons en Angleterre, même si on n'entend plus parler de la grande enquête sur les affaires de réseau VIP étouffé, la police continue à travailler. Ces derniers temps, la presse a évoqué le cas de Greville Janner, un politicien du Labour fortement soupçonné d'avoir fait partie du réseau de Dolphin Square, mais qui va échapper à la justice parce qu'il serait devenu sénile. Ah, formidable. Cela fait plusieurs fois que Lord Janner échappe à la justice. Il faut dire que le personnage a des relations. Il fait partie du petit groupe des conseillers de la reine depuis 71 et est impliqué dans divers groupes et lobbies juifs, comme le Board of Deputies of British Jews. Donc le conseil des députés anglais juifs, ou le Holocaust Educational Trust, bon voilà, on va dire l'organisation d'éducation à l'Holocauste, qu'il a présidé, ou encore le Congrès juif mondial, dont il a été le vice-président jusqu'en 2009. Alors on peut juste citer le père de la famille Bronfman, qui faisait des alcools aux USA. Donc c'est la marque Seagram qui a fait fortune là-dedans et dont les filles étaient impliquées dans la secte Nexium où il y avait également de la pédophilie et des abus en tous sens et que ce monsieur Bronfman a été président du Congrès juif mondial également. Voilà, des petites coïncidences. Continuons. Il a aussi été membre du Magic Circle, donc ça je vous renvoie une association pour développer la magie, paraît-il, et a dirigé une association de Boy Scouts. Alors le Magic Circle, l'appellation va aussi à un réseau pédocriminel qui agissait en Écosse. Je vous renvoie à un autre podcast. En fait, souvent, c'est une sous-culture, en fait, hein, la pédophilie. Et tous ces réseaux se connaissent et interagissent. Et donc, en fait, souvent, c'est pour ça qu'on retrouve des signes, des symboles. Je vous renvoie à nos articles sur les journées de fête internationale des pédophiles. Donc, notamment, des papillons. Hein, les papillons, c'est le signe des pédophiles qui aiment les petites filles. Et à chaque fois que vous allez avoir des associations de protection de l'enfance avec des papillons, il y a une petite sonnette d'alarme qui s'allume. Voilà, tout ce qui est arc-en-ciel, compas, pyramide, évidemment, ça sent pas bon. Voilà, donc il était dans les Boy Scouts. Continuons sur ce fameux Janner, le passif du baron Janner. On a commencé à parler de lui publiquement dès 91, quand le directeur de trois foyers pour garçons a dit à la police que Janner avait mis la main sur un de ses pensionnaires avec lequel il avait des relations sexuelles. Le directeur, Frank Beck, s'est retrouvé accusé lui-même de pédophilie, mais lui a été condamné, et même lourdement. Il a eu 5 peines de prison à vie. Il est mort en prison en 94 d'une attaque cardiaque en jouant au badminton. Il faut dire que ce sont pas moins de 200 victimes qui ont déclaré avoir été violées par Beck. Quant à Janner, l'enquête à son sujet a été vite close. Il y a quelques mois, on a appris par la presse qu'un ancien enquêteur a expliqué avoir été forcé de stopper une enquête sur des accusations de pédophilie impliquant Janner, et cela dès 89, quand l'enquête sur Beck a commencé. Oui, donc juste, enfin, il y a peut-être une confusion, hein, le monsieur qui a dénoncé les abus au sein du foyer, ce n'est pas Frank Beck, évidemment, c'est quelqu'un du personnel. Janner avait même été entendu par la police durant l'instruction du dossier Beck, et il n'a répondu à aucune question, et il n'a été poursuivi pour faute de preuves. En ce fait, ce serait après avoir dénoncé Janner que Beck a été poursuivi pour des viols sur mineurs. Lors du procès de Beck, un jeune homme est venu dire qu'il a été l'une des victimes de Janner, qui manifestement venait se fournir dans ce foyer. Le jeune a pu décrire la maison de Janner, a montré une lettre qu'il lui aurait écrite, Beck confirmait son témoignage, mais on n'a rien fait. Janner n'a pas été appelé à la barre pour s'expliquer ce qu'il pouvait savoir à propos des foyers de Beck. Au Parlement, Janner a dit que tout cela n'était que des mensonges et qu'en fait, il avait seulement cherché à aider en vain ce gamin perdu, la presse a suivi et tout le monde a oublié l'affaire. Allez hop, emballé, c'est pesé. À tel point que Janner a même été anobli par Tony Blair en 97. Alors juste, je me permets quand même. Voyez à quel point les médias sont importants. Si les médias, au lieu de le couvrir, avaient commencé à gratter, la justice, quand c'est sur la place publique, ça commence à être un peu touchy, ça commence à être compliqué, on est obligé un peu de faire quelque chose. Donc en fait, si les médias faisaient leur boulot, d'une manière ou d'une autre, ils obligeraient même la justice corrompue à faire un peu quelque chose, ou au moins à faire semblant, hein. Donc ils font bien intégralement partie de ce système. Voilà. Continuons. Janner avait été bien défendu par ses amis, dont le député Keith Vase, qui a fait passer une loi interdisant à la presse de donner les noms des témoins ou personnes citées dans les procès. Formidable. Alors, c'est vrai que dans la presse anglaise, contrairement en France, il y a un peu de la presse qu'on méprise en disant oui, c'est de la presse tabloïde. Oui, mais c'est souvent aussi de la presse qui va sortir des choses que les autres ne sortent pas, qui sont moins dans l'establishment. Typiquement, en Allemagne aussi, on va avoir des journaux, notamment des magazines hebdomadaires, qui vont faire le taf. En France, si vous pensez que le Canard enchaîné sort des scandales, vous êtes extrêmement naïf. Si vous pensez que Mediapart fait quelque chose de bien, vous êtes extrêmement naïf. Voilà. Ce sont des journaux qui permettent de menacer tout le monde de sortir les casseroles quand on a besoin de faire tomber quelqu'un. Voilà. C'est juste à ça que ça sert. Continuons. En 1995, des parents du secteur de Janner et Beck ont dénoncé l'existence d'un réseau de pédophiles, mentionnant Janner qui bénéficiait de protection. La justice aura ensuite classé deux dossiers à son sujet, en 2002 et en 2007. Une enquête de police sur lui aurait aussi été menée de 2002 à 2006, mais elle n'aurait jamais été transmise à la justice. En 2013 et 2014, la police a mené des perquisitions au bureau et au domicile de Janner, à Hampstead, la ville où justement donc les deux enfants dénoncent des abus sexuels commis par une sorte de réseau satanique. Donc, comme vu dans le réseau juste avant. Apparemment, l'enquête sur les abus des années 80 avait été plus ou moins rouverte par la police, mais le 16 avril, on apprend que la justice ne le poursuivra pas car il est devenu sénile. Ah, bah c'est formidable. Donc, ça, on le voit dans plusieurs affaires, notamment récemment l'affaire Sijinski à Marseille, un ophtalmologiste rotary, franc-maçon, etc., où il y avait de l'inceste intrafamilial sur plusieurs générations. Ben, le mec arrive au procès dans un fauteuil roulant, ah il n'y arrive pas et tout, mais le mec en fait il est bouillant, il est à moitié à se lever dans son fauteuil, et puis une fois qu'il est mis en prison, ben en fait il sort de prison parce qu'il a mal au dos, et qu'il a un ami du Rotary, médecin, qui lui fait un truc comme quoi il a mal au dos, qu'il peut pas aller en prison, et il sort de prison, vous voyez? Donc tout ça c'est bien, mais les histoires d'attraper les gens quand ils sont vieux, en fait c'est trop facile de les faire sortir. Donc il n'y aura même pas de procès, rien, parce qu'il est sénile. Voilà, formidable. Des associations de victimes et des victimes se sont alors fait entendre. Et finalement, on va faire une enquête pour étudier la situation. Si on est mauvaise langue, on va dire que cette enquête va encore être une usine à gaz qui ne débouchera sur rien et permettra de mettre de côté cette question pendant quelques mois, voire quelques années. Janner a quand même été suspendu du parti, du Labour. Rappelons que l'Angleterre est en ce moment en pleine campagne électorale avec un changement de gouvernement à la clé et les élections sont prévues en mai 2015, donc. Protection. Pour une fois qu'on en avait un encore vivant. Eh oui, parce que souvent, dans ces réseaux VIP anglais, on a jugé des gens qui étaient morts. Enfin, où on a sorti des affaires sur des gens morts. Et tous les gens vivants, bizarrement, il n'y avait pas de dossier. Mais l'affaire risquait d'être problématique, car en effet, une vingtaine d'hommes sont venus expliquer à la police que Janner les avait violés quand ils étaient mineurs. Alors là, tout de suite, c'est la boîte de Pandore. La justice n'en a retenu que 9, pour des faits allant de 69 à 88, avant de renoncer à toutes les poursuites. Magnifique. On a aussi appris que le dossier concernant Janner fait partie de 114 dossiers de réseaux pédophiles VIP qui ont mystérieusement disparu du bureau du ministre de l'Intérieur, Léon Brittan. Lui-même cité comme un des visiteurs du bordel de pédophiles de l'Elm Guest House et du Dolphin Square, où il aurait été présent lors du meurtre d'un adolescent au cours d'une partouze. Le dossier concernant Brittan était épais, mais hélas, il est mort en janvier. Récemment, le témoignage de 10 pages fait par une victime devant la police a été diffusé. Alors juste encore une parenthèse, mais est-ce que vous vous rendez compte pour un citoyen normal? Mais il y a 20 personnes qui viennent dire que vous les avez violées. 20 personnes différentes, de familles différentes, à des moments différents. Et on laisse tout tomber? C'est quoi la justice là? C'est quoi? C'est la théorie du complot, c'est ça? Il y a 20 personnes qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas en lien les uns avec les autres, qui font un complot incroyable, on ne sait pas comment, et qui viennent raconter pour essayer de faire couler une personne? Non mais on rêve, on rêve. Bon, continuons. Mais c'est vrai que la raison n'a pas sa place dans ces réseaux de protection où la seule logique est la protection, justement. Donc, il fait un témoignage de 10 pages, la victime, devant la police et qui a été diffusé. Il y évoque des abus subis quand il était dans un homes, donc un foyer, à Leicester. Cette victime explique que Janner l'a amené dans des soirées au siège du parti, dans ses bureaux et même au Parlement, et que Janner l'a violé quand il avait 14 ans, en 74, à Hampstead. La, entre guillemets, relation aurait ensuite duré 2 ans et les viols ont eu lieu notamment chez Janner, qui était marié et père de famille, et ou dans des hôtels. Mais on a encore étouffé cette histoire et toutes les mentions de Janner ont été effacées du dossier de cette victime chez les services sociaux. Apparemment, la justice n'a pas été informée de toute cette enquête. Oui. À l'époque, cette victime était dans un foyer de Leicester, donc. Madame Fitt, qui le dirigeait, était parfaitement au courant de cette relation car il le lui avait dit. Donc c'est quand même extraordinaire, tu diriges un foyer pour mineurs et tu ne trouves pas de problème à ce que l'adolescent puisse avoir une relation donc illégale, criminelle avec un adulte. Ça doit être pour avoir une bonne réinsertion certainement. Même la directrice des services sociaux du secteur a reçu un dossier sur cette histoire, mais rien n'a bougé. On notera aussi que selon cette victime qu'il connaissait bien, Beck était innocent. Ben voyons. Et les enquêteurs ont tenté de lui faire dire le contraire pendant plus de 2 heures. Pour une autre victime de Janner, Beck avait servi de rabatteur. Il y a quelques jours, Exaro a révélé que 4 des médecins qui ont expertisé Janner ne reconnaissaient pas leurs propos dans l'avis publié par la justice au sujet de l'absence de poursuite contre Janner. En effet, on a demandé que à un d'entre eux si Janner pouvait faire face à un tribunal, et tous ne sont pas d'accord sur le diagnostic. On a encore appris le 18 avril par Exaro et le Mirror, donc c'est le genre de journaux de presse à scandale anglais, que la police a enquêté durant 6 mois sur l'appartenance de Janner au réseau pédophile de Westminster, celui des politiciens du Dolphin Square, dans lequel on retrouvait notamment Léon Brittan et Peter Heyman, l'ex-patron du MI6. C'est un témoin appelé Nick qui a parlé de meurtres commis dans le cadre de ce réseau au Dolphin Square et qui a aussi décrit des viols commis par Janner à Londres. On se retrouve avec une actualisation quelques mois plus tard, en avril 2015. On apprend par le Daily Mail que Janner a été jusqu'à écrire un mot de remerciement au policier qui menait une enquête à son sujet après qu'il ait été forcé de stopper ses recherches par un ordre de ses supérieurs. Janner l'a même invité à dîner au Parlement ainsi que sa femme. Waouh! On a aussi appris qu'une trentaine de personnes se sont fait connaître de la police comme étant des victimes de Janner. Donc là, ça commence à faire quand même beaucoup. Si Janner fait partie du réseau de Westminster, il serait intéressant de l'interroger, même sans le condamner, au vu de son Alzheimer, soi-disant. Mais il est l'un des seuls à pouvoir encore éclaircir notre lanterne sur l'organisation de ce groupe, dans lequel on retrouvait aussi bien des politiciens du Labour que des conservateurs. Donc en gros, le Labour c'est la gauche, les conservateurs c'est la droite, mais version anglo-saxonne, donc tout le monde est quand même à droite, un peu comme en France maintenant, quoi. Les victimes, elles, attendent en tout cas des explications qu'à mon avis, elles ne sont pas prêtes d'avoir. On peut aussi se demander pourquoi il a fallu attendre les perquisitions chez Janner et 1 an d'enquête qui finit par déboucher sur l'affaire du réseau du Dolphin Square pour se dire que Janner est trop sénile pour subir une procédure. Continuons. A Burritel en Angleterre, l'art de faire taire les enfants. Donc on revient sur les enfants de Hampstead, juste parce qu'il y a des révélations chronologiquement plus tardives. Donc deux enfants qui avaient effectivement dénoncé l'école et le réseau satanique avec leur père. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec sur le web un champ de bataille entre deux camps, ceux qui soutiennent le père et ceux qui soutiennent les enfants. Il y a environ 3 ans, on en avait parlé à l'époque, donc ces vidéos des deux enfants ont fait scandale, à tel point que les médias commerciaux ont parlé de l'affaire, pour prendre la défense du père, longuement interviewé pour pleurer dans les médias sur tout ce que ses enfants racontaient à son sujet. Non mais on hallucine quoi. Juste, et la mère, non quoi. La mère, elle n'a pas droit à la même émission pour dire son point de vue quoi. On rêve. C'est au cours de l'été 2014 que les enfants ont commencé à parler à leur mère et à son compagnon, ainsi que c'est parce que ces derniers les avaient vus se toucher. En septembre 2014, les enfants ont été longuement entendus et filmés par les flics de Hampstead. On note cependant qu'il y a des morceaux de plusieurs minutes qui ont été coupés lors des auditions des enfants, comme le montre la timeline. Donc d'où l'importance de ce qu'on n'arrive pas encore à faire appliquer partout en France, la procédure Mélanie, c'est-à-dire une procédure où les enfants victimes d'abus sexuels sur mineurs, quand ils sont entendus par un homme et une femme formés à la déposition d'enfants abusés, pas en uniforme, dans une pièce banalisée comme un salon, à l'intérieur du commissariat, et filmés. Hein. Et donc ça, malgré tout, ça permet, vous voyez, que quand l'affaire est enterrée, on arrive à faire ressortir ces vidéos. Sachant que ces vidéos, la famille doit en avoir la possession. Évidemment, la mère protectrice doit récupérer ses vidéos et elle a le droit d'en user comme elle veut. Revenons. Donc, ils ont été immédiatement placés en foyer par mesure de protection. Quelques semaines plus tard, ils ont été envoyés en famille d'accueil, séparément. Donc, ils ont été retirés à leur mère parce qu'ils subissaient à cause d'un groupe de dingues pédophiles et meurtriers qui gravitent autour de son père. Voilà, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit. Donc, ce que les enfants ont raconté. Plusieurs vidéos ont été filmées par la mère et le beau-père des enfants âgés de 8 et 9 ans durant des vacances d'été de 2014, quand la famille était au Maroc. Dans ces vidéos, les enfants expliquent ce qu'ils subissent encore et à ce moment-là, c'est-à-dire des viols collectifs et des rituels avec des sacrifices de bébés. Apparemment, ces faits durent depuis qu'ils sont tout petits et ils n'en avaient jamais parlé avant début 2014. Des retranscriptions complètes ont été mises sur un blog, dont voici en partie des éléments principaux. Le garçon explique par exemple à sa mère qu'il a très peur parce qu'on leur a fait faire est dangereux et qu'il a mangé des bébés. Je cite, j'ai mangé des bébés et je me sens très faible par rapport à tout cela, vraiment faible, pas fort. Donc, not strong. La sœur dit, la toute première fois qu'on l'a fait avec papa, la première fois qu'on l'a fait, on a eu très peur. Quand vous avez fait quoi? Lui pose la question. Quand on a tué un bébé la première fois. Vous avez tué le bébé? Oui, avec papa. Papa tenait ma main, il m'aidait. Donc il m'a dit de couper la tête du bébé, il m'a forcé à le faire. Fin de citation. Comme j'ai déjà entendu à plusieurs reprises, la première fois qu'un enfant doit sacrifier un bébé, c'est son père qui lui tient la main. Cela ressemble à une initiation. Et aussi, ça permet de culpabiliser l'enfant, puisqu'il lui dit attention, c'est toi qui l'as fait, si la police t'attrape, etc., etc. La petite explique qu'en grandissant, ils ont pris l'habitude de faire cela et ne pensaient pas que c'était mal avant d'en parler à leur mère. Au sujet du culte, alors c'est en anglais le mot cult, en fait ça correspond plus au mot secte en France. Au sujet du culte de leur père, la fillette dit qu'au tout début, ils ont vu leur père tuer un bébé et qu'elle et son frère ont été violés par des adultes. Cela s'est produit, selon elle, la première fois quand ils ont été à l'école. Donc on va citer ici les abuseurs de l'école, Madame Hollings, Monsieur Hollings, pardon, Monsieur Forbes, Madame Forsdyke, Madame Mardon, l'infirmière de l'école, Monsieur Burnett, mentionne des parents et des enseignants. Ainsi que leur père, donc leur père Ricky Dierman, qui serait le chef du culte, et aussi une vingtaine de prêtres, ainsi que des policiers, dont un certain A.B. Williams, un certain Simon Pitzman et une certaine Alice Singleton. Les enfants décrivent des marques distinctives sur les parties privées de certains abuseurs, si bien qu'il serait facile d'aller vérifier. Donc des anatomies étranges au niveau du sexe. Donc c'est des choses qui sont assez évidente pour un jury, puisque si l'enfant décrit de manière détaillée ce genre de particularité anatomique, c'est forcément qu'il a vu les parties génitales de la personne. Il ne peut pas les avoir inventées. C'est des choses importantes dans ces affaires-là, un grain de beauté spécial, mal placé, l'aspect du pénis, l'aspect voilà, des seins on va dire du sexe féminin ou des choses comme ça, des cicatrices, etc., peuvent être des éléments confondants et ils sont importants de relever. Une langue étrange est parlée lors des cérémonies. Les activités principales de ce culte seraient les partouzes avec des mineurs et des rituels. Les femmes utilisent des gonmichets pour violer les enfants. Je cite. Les bébés massacrés à ces occasions seraient fournis par les services sociaux, des familles qui ne peuvent pas s'en occuper ou qui n'en veulent pas. Les bébés sont d'abord violés, puis tués une fois qu'ils sont endormis par Madame Mardonne et mangés selon les enfants. Ensuite, on danse avec les os des enfants, disent les enfants. Fin de citation. La chair serait mise de côté et cuisinée, rôtie ou en friture. Des restaurants seraient impliqués aussi, des enfants citant un McDo, un Starbucks et mentionnant d'autres établissements. Les enfants expliquent aussi que lors des rituels, les adultes ont des chaussures spéciales, donc en peau de bébé, faites par des types d'un magasin de chaussures installé dans le métro, dont les enfants donnent la localisation. Il y a régulièrement des viols d'enfants à qui on donne ensuite des bonbons. Les viols et rituels ont également lieu dans une église de la ville. Plusieurs écoles de la ville seraient impliquées, et non pas uniquement celles des enfants. La leur, Christchurch, mais aussi l'école Sainte-Margaret, la Hampstead Paroissiale, la Hampstead Hill School, la Fitz-John School et d'autres. Ils dénoncent aussi des policiers. Donc, je ne sais pas si on se rend compte, ça veut dire que là, sur un quartier, je ne sais pas, il y a peut-être quelques dizaines d'écoles, mais il y a 30% des écoles où il se passe ces choses-là. C'est un truc de ouf. Londres depuis les années 60, mais n'y allez pas. Je continue. Ils dénoncent aussi des policiers. Les enfants racontent aussi des viols commis par Spike et Richie, des membres des services sociaux qui viennent dans l'école pour les agresser et connaissent le père, comme dans l'affaire Amélie. Les enfants ont aussi été questionnés à plusieurs reprises sur la manière dont leur mère s'occupait d'eux, manifestement pour tenter de décrédibiliser la mère et de valoriser le père. Les mercredis, c'est le jour le plus chargé en sexe. Il y a du sexe à l'école quasiment tous les jours, un peu moins le lundi et le vendredi. Mais les mercredis, c'est l'orgie à l'école. On fait beaucoup de sexe, ils nous donnent plein de bonbons, vraiment plein de bonbons, et c'est aussi le jour où ils nous les donnent, quand ils nous donnent plein de bonbons et de l'argent aussi. Ils vous donnent de l'argent? Oui, ils ont un jour spécial pour l'argent. Le mercredi, une centaine de personnes seraient présentes au rituel. Tous les parents ne sont pas là car il n'y a pas assez de place dans l'école. Il faut alors aller ailleurs dans des maisons comme celle de Monsieur Hollings. Je cite, dans l'une des églises où ont lieu les rituels, les membres du culte cuisinent des bébés dans une cuisine secrète. Fin de citation. Donc juste pour faire une parenthèse, dans le documentaire Viol d'enfant, la fin du silence, on décrit exactement le même genre de choses. Enfin, c'est pas dans le cadre d'une école, mais on a une grande salle en souterrain avec une grande statue de Mammon, avec des rituels où on sacrifie des enfants à la chaîne, où il y a plus de 200 personnes dans cette salle, et où après tout le monde donne de l'argent. Voilà. Donc c'est un business qui permet à ces gens de continuer à le faire, qui permet à ce réseau de continuer à se procurer des enfants, parce que malgré tout, ça coûte aussi de l'argent, même si les services sociaux les fournissent gratuitement, certainement. Et on se rend bien compte qu'en fait, il y a une infiltration, il y a un noyautage de tous les endroits importants par ce réseau et par ces pédophiles. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens. Donc souvent, il y a des nids, c'est-à-dire que c'est dans des quartiers ou des régions ou des départements. Et on va avoir les responsables des services sociaux, les magistratures, les policiers, etc., qui vont, où les pédophiles vont infiltrer ces endroits-là. Et une fois qu'ils sont tous en place, comme ils se connaissent et ils se reconnaissent, ils vont pouvoir commencer à mettre en place ces réseaux, coopter d'autres, virer ceux qui posent problème, et voilà comment le nid s'effectue. Continuons. Les bébés sont tués par leur père et par d'autres hommes, notamment les pères de 5 ou 6 camarades de classe, selon les enfants. Les enfants ont aussi bu du sang de ces bébés, ils disent que ça a le goût du métal. Effectivement, donc dans le sang, il y a du fer dans l'hème, HEME, qui est à l'intérieur des globules rouges et qui permet la fixation de l'oxygène, donc dans l'hémoglobine. Et effectivement, voilà, tout le monde peut même le tester dans du sang d'animal, enfin qu'on mange tous les jours, de bœuf ou quoi. Ça a le goût de métal. Ils ont aussi mangé la chair. Ils pendent les bébés à l'envers, puis les égorgent pour récupérer le sang dans des récipients, donc comme on fait du boudin. Une vingtaine d'enfants spéciaux, entre guillemets, issus de ce groupe, auraient des tatouages, mais pas les deux enfants qui témoignent. Je cite, et tous les enseignants qui ont aussi des tatouages de monstres, de diables, précise le garçon, qui sont sur les parties sexuelles. Fin de citation. La famille de leur père sera également impliquée dans les abus. Les enfants parlent aussi d'une de leurs copines âgées de 8 ans qui, entre guillemets, adore le sexe et qui a beaucoup de bonbons grâce à ça. Donc là, on est vraiment dans de la manipulation, dans du dressage. Donc je vous renvoie au live sur les abus rituels où notre psychologue va expliquer plus en détail les fonctionnements qui permettent aux adultes d'arriver à obtenir ce genre de comportement enfin ce genre de comportement théâtral de la part d'enfants et les adultes pervers se délectent de se faire croire à eux-mêmes que l'enfant adore ça alors que c'est seulement une programmation, un dressage. Voilà.